30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir Le Monde, aujourd'hui édition du 16 juin 2014, Nathalie Barge en compagnie de Chérubin Dorsil en direct du studio 15 de La Voix de l'Amérique à Washington. Au sommaire ce soir, République centrafricaine vers un dialogue entre les ex-Seleka et anti-Balaka.
Renforcement de la sécurité au Kenya après une attaque meurtrière revendiquée par les Shabab somaliens.
La Russie suspend l'approvisionnement en gaz de l'Ukraine, une mesure sévèrement critiquée à Kiev.
En Irak, la progression des djihadistes continue.
Et bien sûr, nous aurons le journal de la Coupe du Monde. Alors le Nigeria affronte l'Iran tandis que le Ghana ouvre sa campagne face aux États-Unis. Et la musique en fin d'émission avec donc Roger Muntou, mais pour l'instant le journal.
Sécurité renforcée au Kenya après l'attaque d'hier qui a fait au moins 49 morts, dont au moins un policier et de nombreux blessés dans la ville côtière de Mpeketoni. Les islamistes du groupe somalien Al-Shabaab ont revendiqué l'attaque. Précision, Michel Joseph.
Des hommes armés venus à bord de 20 véhicules ont attaqué hier nuit Mpeketoni, près de l'archipel touristique de Lamu, alors que les habitants suivaient la retransmission de la Coupe du Monde. Les autorités kényanes précisent que les assaillants visaient uniquement les hommes. Ils ont brûlé une vingtaine de véhicules et des maisons. Le président de la Croix-Rouge kényane, Abbas Goulet, fait état de deux banques, un commissariat de police et un bâtiment public qui ont été incendiés. Un témoin a confié que l'assaut a duré plusieurs heures et que la police a mis du temps à répondre. Le ministre kényan de l'Intérieur, Joseph Lenku, affirme que les forces de sécurité sont à la poursuite des assaillants qui se sont réfugiés dans la forêt de Boni. Dans un communiqué, le groupe somalien Al-Shabaab a revendiqué l'attaque, disant que c'est en réponse à la répression brutale du gouvernement kényan contre les musulmans. Les islamistes somaliens ont appelé les touristes à éviter le Kenya, devenu selon eux une zone de guerre.
En République centrafricaine, le processus de réconciliation entre anti-Balaka et ex-Seleka fait quelques pas en avant. À Bangui, les dirigeants des deux mouvements armés se sont retrouvés autour d'une table pour parler de la paix. C'était sur initiative de l'ONG Paix, Réconciliation, Tolérance, Pareto. Le point avec Idriss Fall.
C'est la deuxième fois en moins d'une semaine que les leaders des deux mouvements armés se retrouvent pour parler de la paix. Ce lundi, Abdoulaye Hissène Ramadan, coordinateur politique des ex-Seleka, Mustapha Saboun, secrétaire général et Eric Massi étaient assis face à face avec Patrice Edouard Ngaïsona, coordinateur des anti-Balaka, Émotion Brice Namsio, porte-parole, et Alfred Legrand Gaïa, le conseiller politique. Benny Diogo Kouyaté de l'ONG Pareto a organisé cette rencontre inédite.
Le moment est très proche pour qu'ils se prononcent. Ils ont à parler entre eux et au peuple centrafricain qui souffre aujourd'hui de leur exaction de part et d'autre. La chose la plus essentielle et plus importante, c'est la reconnaissance de chaque parti de son tort fait à cette paisible population et la volonté d'aller au dialogue, mais surtout de demander pardon entre eux et demander pardon au peuple centrafricain victime.
Après plus de 3 heures d'échange, les leaders des deux groupes armés se sont fait des accolades et ont échangé des numéros de téléphone. Ils ont décidé de mettre en place prochainement un comité mixte de réflexion et œuvrer pour la réconciliation dans le pays.
Deux personnes ont été tuées et 2 grièvement blessées dimanche dans une attaque à la grenade à Uvira, dans l'est de la RDC, en proie à la violence de groupes armés locaux et étrangers. C'est ce que rapporte l'AFP citant la société civile. Uvira se situe au sud de Bukavu, la capitale du Sud Kivu.
En guerre civile depuis 6 mois, le Soudan du Sud est menacé par la famine, alerte l'ONU, disant que jusqu'à 50 000 enfants pourraient mourir de malnutrition. Des précisions avec Camille Gros-Didier.
L'ONU a lancé un appel pour obtenir plus $1 milliard pour une aide humanitaire d'urgence et affirme n'avoir reçu qu'une infime partie de cette somme. Sans financement suffisant pour couvrir le reste de 2014 et les 3 premiers mois de l'année prochaine, souligne l'ONU, le Soudan du Sud va souffrir d'une des pires crises humanitaires. D'après le rapport onusien, jusqu'à 50 000 enfants pourraient mourir de malnutrition. Le choléra ne pourra être contenu et des dizaines de milliers de personnes risquent de décéder d'autres maladies. Emma James Drew, la responsable d'Oxfam pour le Soudan du Sud, a déclaré hier que les moyens de subsistance de millions de Sud-Soudanais ont été détruits. Ce conflit qui dure depuis 6 mois a déjà fait des milliers de morts, plus d'un million de déplacés et au moins 5 millions de personnes ont besoin d'une aide d'urgence. Le président Salva Kiir et son rival Riek Machar se sont engagés à former un gouvernement de transition d'ici à 60 jours, mais les accords précédents n'avaient tenu que quelques heures.
En Égypte, le verdict dans le procès des journalistes d'Al Jazeera sera fixé le 23 juin, a annoncé un tribunal. Claire Morin-Gibourg.
Un procureur égyptien avait requis entre 15 et 25 ans de prison contre les 20 accusés, des journalistes et collaborateurs de la chaîne Qatari. 16 Égyptiens sont accusés d'appartenance à une organisation terroriste et les 4 étrangers de diffusion de fausses nouvelles pour soutenir les frères musulmans. 9 sont détenus en Égypte, dont le journaliste australien Peter Grest, et 11 sont jugés par contumace. Certains affirment avoir été torturés en prison. Depuis la chute de Mohamed Morsi, plus de 15 000 personnes ont été emprisonnées et des centaines condamnées à mort ou à la prison à perpétuité. Ces procès massifs et expéditifs ont été condamnés par la communauté internationale.
Le prix Nobel de littérature Elfriede Jelinek et le réalisateur Fatih Akin ont apporté leur soutien à quelques 300 Africains sans papier, réclamant leur régularisation à Hambourg après une escale sur l'île italienne de Lampedusa. L'Autrichienne et le réalisateur allemand d'origine turque ont signé une pétition avec d'autres artistes et intellectuels en Allemagne. Ces sans-papiers originaires de l'Afrique subsaharienne travaillaient en Libye avant la chute de Kadhafi. Expulsés de Libye, ils ont passé 2 ans dans des camps de réfugiés en Italie. Ils réclament des permis de séjour, mais la ville de Hambourg s'appuie sur des décisions européennes. Prévoyons que c'est le pays d'entrée de l'Union européenne, en l'occurrence l'Italie, qui doit examiner leur demande d'asile.
En Irak, les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant gagnent du terrain. Ils ont conquis Tal Afar, une enclave chiite au nord de Bagdad. Lionel Gaïma.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Les islamistes sont parvenus à prendre le contrôle de Tal Afar dans la province de Ninive. Les forces de sécurité ont dû battre en retraite. Quelques 200 000 personnes ont dû fuir vers les localités voisines. Malgré tout, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Saad Man, a nié toute progression des djihadistes vers Bagdad. Il a assuré que les islamistes ne contrôlent pas un seul mètre de Tal Afar et que le gouvernement a même repris l'initiative. Des ambassades occidentales ont commencé à évacuer leur personnel. Un navire de guerre américain avec son bord 550 marines et des hélicoptères est arrivé dans le golfe au cas où l'évacuation de l'ambassade américaine serait nécessaire. Le personnel américain non essentiel a déjà quitté la capitale irakienne.
Les États-Unis n'écartent pas l'éventualité d'une coopération avec l'Iran pour contrer les militants sunnites en Irak. C'est ce qu'a laissé entendre le secrétaire d'État John Kerry ce lundi. Washington et Téhéran n'entretiennent pas de relations diplomatiques depuis plus de 30 ans.
Le président ukrainien Petro Poroshenko a annoncé pour cette semaine un plan de paix détaillé pour la région de l'Est. Il a indiqué que la phase initiale sera un cessez-le-feu avec les séparatistes pro-russes. Également envisagé, un amendement constitutionnel pour décentraliser le pouvoir. C'est l'une des principales revendications des militants anti-gouvernementaux dans l'Est de l'Ukraine. Par ailleurs, l'entreprise russe Gazprom a annoncé aujourd'hui l'arrêt de ses livraisons de gaz naturel à l'Ukraine pour défaut de paiement.
Au Pakistan, de nouvelles frappes aériennes dans la région tribale du Waziristan Nord ont tué au moins 27 militants. Le Premier ministre Nawaz Sharif a indiqué aujourd'hui dans un discours au Parlement les raisons qui l'ont poussé à abandonner les pourparlers de paix avec les talibans pakistanais et ordonner l'offensive militaire qui a débuté hier. Il a ajouté qu'il ne permettra pas que le Pakistan devienne un repère de terroristes et qu'il n'y avait d'autre option que de lancer une opération dans le Waziristan Nord.
3 musulmans ont été tués et 75 personnes blessées hier soir dans le sud de Sri Lanka lors d'affrontements avec des bouddhistes. Les violences ont commencé à la suite d'un rassemblement du groupe bouddhiste radical Bodu Bala Sena. Selon des témoins, les partisans du groupe ont brûlé plusieurs maisons et attaqué des mosquées. La police a imposé un couvre-feu dans la zone. Le président a promis une enquête et exhorté toutes les parties à la retenue.
La Chine annonce l'exécution ce lundi de 13 personnes accusées de terrorisme et crimes violents dans la province occidentale de Xinjiang. 3 autres viennent d'être condamnées à mort par un tribunal de la région. Et voilà pour le journal avec vous, c'est Nathalie Barge en compagnie de Chérubin Dorsil pour vous présenter Le Monde aujourd'hui sur la Voix d'Amérique.
Maintenant, notre magazine. En Irak, les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant sont arrivés en quelques jours seulement à contrôler des pans entiers du territoire en mettant en déroute l'armée irakienne. Une situation qui rappelle la progression fulgurante des islamistes il y a 2 ans dans le nord du Mali. Idriss Fall a joint Abdourahmane Touré, un habitant de Gao dans le nord du Mali.
Je ne comprends pas les Occidentaux avec tous les services de renseignement qu'ils ont, avec toutes les informations qu'ils ont. Ils attendent à ce que les djihadistes arrivent à contrôler la situation avant d'agir. C'est ce que je ne comprends pas. Ce qui est en train de se passer en Irak n'a trompé personne, que c'est les sunnites qui sont en train de le faire. Et là où ils avancent, là où il y a des populations sunnites, les populations sunnites se soulèvent avec eux et ils chassent l'armée. L'armée n'était rien. C'est ce qui s'est passé chez nous. Je suis vraiment profondément choqué, indigné et contrarié, et puis je suis vraiment profondément touché pour le peuple irakien.
Et que pensez-vous du rôle des Américains? C'est eux qui ont fait tomber Saddam Hussein et ont retiré leurs troupes il y a un peu plus de 2 ans maintenant.
Bon, les Américains ont fait tomber Saddam Hussein. En son temps, nous tous au Mali, nous avons... Bon, moi particulièrement, j'ai dit que c'est une bonne chose. Mais comme l'a dit le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed, on a fait tomber Kadhafi. Il faut faire le service après-vente. C'est-à-dire qu'il faut stabiliser le pays. Les Américains ont fait tomber Saddam Hussein, mais ils n'ont pas résolu les problèmes politiques. Ils n'ont pas résolu les problèmes confessionnels qui existent entre les Irakiens. Et c'est ce qui est en train de surgir. Ce n'est pas un problème militaire, c'est un problème de partage politique du pouvoir. Et ça, les Occidentaux, ils ont la responsabilité de le faire.
C'était Abdourahmane Touré, un habitant de Gao, dans le nord du Mali.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde, les résultats, les coulisses et les à côté de cet événement planétaire. Matin et soir, la voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant 1 mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamérique.com et notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
En Côte d'Ivoire, un collectif de 29 députés a saisi le Conseil constitutionnel au sujet de la commission électorale indépendante. Le collectif estime que la loi électorale récemment votée au Parlement ivoirien rompt avec le principe de l'égalité de tous devant la loi stipulé par la Constitution ivoirienne. Le député Kramo Kouassi du Parti démocratique de Côte d'Ivoire explique ici, au micro de Jean-Roger Bion, les motivations du collectif.
Ce collectif pense que certaines dispositions de cette loi rompent avec le principe de l'égalité de tous devant la loi prônée par la Constitution ivoirienne. En ce sens que la composition de la commission centrale de la Commission électorale indépendante, par exemple, entre autres, hein, voit en son sein un représentant du président de la République, un représentant du président de l'Assemblée nationale, un représentant du ministre de l'Intérieur, un représentant du ministre de l'Économie et des Finances. Et si nous prenons le cas particulier de la représentation du président de la République, nous analysons que si le président de la République, représenté au sein de la commission centrale, devait être candidat à l'élection présidentielle, le fait que lui, de façon intuitive personnelle, ait un représentant au sein de cette commission, alors que les autres candidats ne sont pas autorisés à en avoir pour eux à titre personnel, le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi s'en trouve rompu.
Le projet de loi est passé comme lettre à la poste à l'Assemblée nationale. Apparemment, vous êtes minoritaire au sein de votre parti, le PDCI.
Ah non, on ne peut pas dire comme ça que nous sommes minorité au sein de notre parti ou que nous sommes majorité au sein de notre parti. La Constitution prévoit que les députés librement puissent se constituer en collectif de façon à transcender, voire des députés du PDCI-RDA et des députés d'autres groupes parlementaires. Ce sont des députés qui ont décidé d'agir en responsabilité en interrogeant le Conseil constitutionnel sur des dispositions sur lesquelles ils ont voulu voir clair. Je précise que nous ne sommes pas dans une procédure contentieuse vis-à-vis du Conseil constitutionnel, on est en procès vis-à-vis de personne. La requête que nous avons introduite vise à renforcer la crédibilité de la commission électorale indépendante. Nous voulons par cela la débarrasser de toute suspicion qui pourrait donner à ces décisions quelques soucis d'acceptation par la population ivoirienne. Qu'est-ce que nous attendons du Conseil constitutionnel? S'il se trouve que le Conseil analyse que donc la loi a toutes ses dispositions conformes à la Constitution, il l'affirme, le Conseil constitutionnel, de sorte à ce que tous ceux qui, dans leur petit coin, pensaient avoir de quoi redire de cette loi, puissent ravaler leur plainte parce que le Conseil constitutionnel aura parlé. Maintenant, si le Conseil trouve aussi que certaines dispositions s'écartent de la Constitution, qu'il ordonne que ces dispositions-là soient mises en conformité avec la loi fondamentale.
Le député ivoirien Kramo Kwasi était joint à Abidjan.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Parlons de la République centrafricaine. Plus de 13 000 habitants d'une trentaine de villages situés dans l'ouest de ce pays ont reçu ces derniers jours des semences et du matériel agricole du Comité international de la Croix-Rouge. C'est en coopération avec la Croix-Rouge centrafricaine, Camille Grodidier.
Au cours des derniers mois, cette région a été le théâtre d'affrontements entre groupes armés. Des milliers de personnes ont dû fuir et à leur retour ont constaté que leur maison avait été brûlée et qu'elle se retrouvait entièrement démunie. On écoute Jean-François Sangseu, chef de la délégation du CICR en République centrafricaine.
C'est un travail que nous avons effectué conjointement avec nos partenaires de la Croix-Rouge de la République centrafricaine. Et cela visait à assister des populations qui avaient été effectivement victimes d'affrontements entre groupes armés à la fin de l'année dernière. Leurs champs avaient été brûlés, il y avait eu différentes conséquences avec leurs maisons vandalisées et ils avaient dû fuir en brousse. Nous avons décidé de leur distribuer vivres, à leur permettre effectivement de se réinstaller et surtout de pouvoir à nouveau récolter leurs champs qui avaient été détruits.
Selon la FAO, 95% des communautés affirment qu'elles n'auront pas assez de semences pour la campagne agricole de cette année. C'est donc pour appuyer la relance de la production agricole dans les villages que le CICR a distribué des semences et des outils.
Un travail qu'on juge extrêmement important pour permettre à ces populations qui ont été victimes de ces affrontements en fin d'année dernière de pouvoir à nouveau retourner dans leur village et récolter leurs champs. A pour objectif de leur permettre effectivement d'ici 4 à 5 mois de pouvoir récolter le fruit de leur travail maintenant.
Jean-François Sangseu du CICR, au-delà de cette assistance agricole, le CICR, toujours en coopération avec la Croix-Rouge centrafricaine, distribue régulièrement de la nourriture à des milliers de personnes particulièrement vulnérables, appartenant à des communautés déplacées ou revenues chez elles à Bangui et ailleurs dans le pays, comme récemment à Ndélé ou Dekoa.
Passons maintenant, Nathalie, au journal de la Coupe du Monde.
Et oui, c'est tous les jours sur nos antennes avec Bagassi Koura, ses invités, notre envoyé spécial au Brésil, Nicolas Pinault. Alors Bagassi Koura qui est avec nous dans le studio, Bagassi.
Oui, bonsoir à tous. C'est la mi-temps en ce moment dans le match entre le Nigeria et donc l'équipe d'Iran. On retrouve tout de suite à Manaus au Brésil, Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Bagassi.
Les deux équipes sont retournées dans les vestiaires 0 à 0.
Et oui, match compliqué pour les Nigérians qui dominent évidemment cette équipe iranienne, mais qui n'arrive pas à trouver le chemin des filets. Les Nigérians ont essayé, les Nigérians qui dominent, mais les Nigérians qui n'arrivent pas à encaisser, à mettre ce but. Et on commence à sentir, Bagassi, des signes d'agacement de la part des attaquants qui réclament notamment à l'arbitre de siffler un peu plus les fautes iraniennes. Mais pour le moment, 0-0 entre les deux équipes.
Et il faut dire qu'un peu plus tôt, hein, Nicolas, le Portugal a perdu face à l'Allemagne 4-0.
Et le Portugal qui a explosé, on peut le dire, Bagassi, avec un triplé notamment de Thomas Müller. Les Portugais de Cristiano Ronaldo qui n'ont pas pu évidemment faire grand-chose face à la suprématie allemande. Alors l'Allemagne qui devient l'un des favoris de ce tournoi avec les Pays-Bas grâce à ce succès très large, Bagassi.
Voilà, et il faut rappeler que le Portugal a joué à 10 contre 11 après l'expulsion de son joueur Pepe.
Et oui, tout à fait, Bagassi. Mais c'est vrai que quand même la domination allemande, je ne pense pas que cet incident de jeu ait vraiment changé la donne. Mais en tout cas, l'Allemagne qui prend la tête de ce groupe. Et on suivra tout à l'heure, Bagassi, le dernier match, celui de l'équipe africaine, le Ghana qui affronte les États-Unis.
Et ce sera à 19h, temps universel, et à 22h, temps universel. Et donc, Nicolas, tout à l'heure, donc, comme on le disait, le Portugal a perdu 4-0. C'était face à l'Allemagne. Voilà, concernant donc cette défaite du Portugal, qui était quand même donné favori dans cette compétition, nous avons voulu recueillir la réaction de Fabrice Bassosila. C'est un fan du football à Kampala, en Ouganda.
Je pense que
voilà donc des difficultés techniques qui nous empêchent d'entendre cette réaction de Fabrice Bassosila sur la défaite, la lourde défaite du Portugal face à la Mannschaft. Et disons tout de suite, hein, ce soir avec le Nigeria, la deuxième équipe anglophone d'Afrique, le Ghana, entre en lice. Le Ghana joue contre l'équipe des États-Unis. Et sur donc ces deux rencontres, Nigeria, Iran, Ghana, États-Unis, on écoute Valdo Simoyamba. Il est journaliste sportif à TV50 à Kinshasa, c'est en République démocratique du Congo. Il commence d'abord par ce match qui est à la mi-temps, Nigeria-Iran.
On attend beaucoup du Nigeria qui rencontre l'Iran. L'Iran est peu connu, il n'a que 4 participations à la Coupe du Monde. Il n'est vraiment pas assez connu, mais attention, cette Coupe du Monde ne se base pas sur les équipes connues. C'est pratiquement un grand défi également pour ces Super Eagles qui seront entre autres conduits par John Obi Mikel, qui n'est vraiment pas du tout assez convaincant encore en équipe nationale.
Et puis on n'oublie pas le Ghana qui retrouve son adversaire, on peut dire traditionnel, les États-Unis.
Avec ces goûts d'inachevé de la dernière Coupe du Monde, rappelez-vous, les Ghanais, ils ont joué les coups de la malchance face à l'Uruguay avec cette main du diable de Suarez qui leur a empêché bien sûr d'accéder en demi-finale. Mais en face, il y a également la sensation en mettant en dérive l'équipe espagnole. Rappelez-vous, c'était pratiquement une grosse frayeur côté espagnol. Côté ghanéen, ça reste également Jan Asamoah qui doit être des grands jours parce que c'est lui le tueur à froid, c'est lui le capitaine, c'est lui, c'est sur lui qui repose la responsabilité, quoi qu'il a été malchanceux avec ses pénalties ratées face à l'équipe, bien sûr, uruguayenne, le mondial dernier.
Voilà, c'était le journaliste sportif de TV50 à Kinshasa en RDC, Valdo Simoyamba. Et demain, l'Algérie, la seule équipe du Maghreb, donc entre en lice. Ce sera contre la Belgique. Et concernant cette rencontre, on écoute le coup de sifflet de Jules Valentin Gouet.
We celebrate the best African football.
Après leurs cousins francophones vendredi et dimanche, les grands rivaux anglophones de l'Afrique de l'Ouest entrent à leur tour dans la danse ce lundi, dans des matchs aux configurations différentes, voire opposées. Riche de son palmarès récent, de ses productions convaincantes, d'un effectif judicieusement rajeuni et très homogène, ainsi que d'une préparation rationnelle, le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire hier, n'a pas droit à l'erreur face à un adversaire logiquement moins armé et à sa portée. La virtuosité, la puissance et la créativité d'un groupe solidaire capable de hausser son rythme de jeu devrait suffire pour amener à la raison une équipe d'Iran trop proche des équipes nord-africaines qui réussissent très souvent au Nigeria. Avant cette confrontation, le Ghana va affronter les États-Unis dans une opposition de style fort agréable. Les Black Stars, dont nul n'ignore les qualités techniques, individuelles et collectives, ni l'esprit d'équipe pour un jeu spectaculaire mais efficace, résolument tourné vers l'attaque, ont les moyens de ramener à la raison une équipe des États-Unis aux arguments physiques et au réalisme proverbiaux. Un échec ghanéen serait de mauvais augure avant d'affronter les montagnes allemandes et portugaises. Alors prudence, à demain.
À demain, Jules Valentin Gué, que vous allez retrouver chaque jour durant toute la Coupe du Monde. On retourne à Nicolas Pino à Manaus au Brésil. La deuxième mi-temps n'a pas encore commencé dans ce match Nigeria-Iran.
Et oui, toujours 0-0 entre les deux équipes. Le coup d'envoi de cette seconde mi-temps va être donné dans 5 minutes, Bagassi. On espère évidemment que les Nigérians pourront trouver la faille face aux Iraniens. On le répète, 0-0 pour le moment entre les deux équipes.
À votre avis, hein, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que quand même, le Nigeria domine son sujet.
Le Nigeria domine, mais les Iraniens qui s'enhardissent évidemment, puisque le temps avance et ils tiennent pour le moment le résultat. Alors évidemment, on peut penser que peut-être en seconde période, l'Iran va être encore plus dangereuse, et notamment l'Iran qui s'est créé la plus belle occasion de cette première mi-temps, et il va sauver son équipe évidemment, mais pour le moment, la domination nigérienne ne doit pas devenir. Et donc on espère que Obi Mikel et les coéquipiers vont pouvoir passer la vitesse supérieure pour s'imposer dans ce match.
Et Nicolas, demain, la Croatie affronte le Cameroun, peut-être sans Samuel Eto'o.
Samuel Eto'o qui l'a confirmé hein, tout à l'heure sur son compte Twitter, Samuel Eto'o qui ne participera pas à ce match contre la Croatie ici à Manaus. C'est désormais officiel, les Lions indomptables qui vont jouer sans leur star. Alors cela va-t-il les libérer? Cela sera-t-il à point? On va le voir évidemment sur le terrain ici à Manaus dans l'Amazonie. En tout cas, la rencontre hein, qui aura lieu, ça va être très intéressant de voir ce match, évidemment contre la Croatie qui n'avait pas démérité face au Brésil lors du match d'ouverture.
Voilà, merci monsieur. C'était Nicolas Pino, envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Manaus au Brésil. C'est tout donc pour cette édition consacrée à la Coupe du Monde au micro Bagassi Koura. On se retrouve demain matin pour le journal spécial de la Coupe du Monde.
Voilà donc pour les sports. Merci beaucoup Bagassi Koura, Nicolas Pino, envoyé spécial au Brésil, et Jules Valentin Ngwe. Maintenant, on passe eh bien, à la page musicale. Et je crois que c'est pour parler encore de sport, de foot, surtout avec Roger Muntu.
Oui, Nathalie, j'aurais bien parlé du sport avec Bagassi aussi, mais malheureusement, il est en train de fuir parce que j'ai beaucoup de questions pour lui, au fait.
Moi, j'en avais aussi, ouais.
Écoute, Nathalie, Ghana, États-Unis, hein, on se retrouve. Les deux équipes se retrouvent donc pour la troisième fois consécutive en phase finale de Mondial cette nuit sur la pelouse de l'Estadio das Dunas de Natal sur la côte est du Brésil. Les Ghanéens de la diaspora, Nathalie, ici à Washington, m'ont dit, Roger, écoute, nous allons gagner et après le match, nous irons danser à Zonto. C'est vraiment pas Zoton là, hein. Je crois que ça c'est pour les Américains. Je crois que c'est les Américains qui vont dire « We love America ». Ben voilà, c'est une chanson pour les Américains. Et bien sûr, « We rockin' in the USA », je crois que Bagassi aime bien ça. Ben écoutons, « Rockin' ». I was born here, I like the idea of being.
Et bien voilà, on termine sur cette petite page musicale avec Roger Muntou avec vous. Donc c'était Nathalie Barge et Chérubin d'Orsil pour vous présenter Le Monde aujourd'hui. Très bonne soirée à tous, à très bientôt sur La Voix de l'Amérique.